L'alerte jaune est donnée sur le pays, alerte au vent entre midi et 19h, donc soyez prudents. Et des maxima qui seront compris entre 8 degrés pour les hauteurs jusqu'à 11 degrés ailleurs. Sur les routes, un véhicule est signalé en panne en bande de gauche. C'est sur le 42 Mons-Namur-Liège à hauteur de Templou en direction de Liège. Vous perdez 10 minutes entre l'aire de Spy et Namur Ouest. À Bruxelles, toujours et encore 25 minutes sur la fin de la E40 depuis Berthem. Un accident s'est aussi produit sur le ring intérieur à hauteur de Zélic. Deux bandes sont obstruées en direction de Zaventem. Sur le ring intérieur, 30 minutes à ralentir donc dans les files entre Expo et Maquelen et puis un quart d'heure entre Wezembeekopem et Tervuren. On vous rappelle aussi que demain, 16 avril, vous serez forcément impacté si vous devez quitter la capitale depuis Auderghem avec, on vous le rappelle, la fermeture de la bretelle d'accès de la E411 vers le ring intérieur en direction de Waterloo. Les itinéraires conseillés pour quitter Bruxelles sont l'avenue de Tervuren pour rejoindre le ring au niveau des quatre bras, mais bonne chance quand même. Et puis l'avenue Franklin Roosevelt, le boulevard du Souverain et ensuite la chaussée de la Huppe pour rejoindre le ring au niveau de Groenendaal en direction de Waterloo.
Infotrafic. Roulez en toute sécurité avec Bell RTL.
Planète Parfum devient April. Venez célébrer nos April Weeks et profitez de moins 25% sur une sélection de produits. Rendez-vous en magasin ou sur april-beauty.be.
À 9h, fin 9h01 pour être précis, on va s'informer. Et on retrouve Thomas de Bergeyck.
Bonjour à tous et bienvenue. La crèche de vos enfants, une chance avant d'être une nécessité car les places sont rares. Deux parents sur trois ont un problème d'inscription, selon le baromètre de la Ligue des Familles. Israël va-t-il répondre à l'agression de l'Iran ce week-end? Les États-Unis demandent à Benjamin Netanyahou de ne rien faire. L'ONU craint une contagion du conflit. Notre quotidien, que sont ces produits ultra transformés qui garnissent nos assiettes? Des ennemis de la santé, on vous dit pourquoi.
Belle RTL.
La galère qui s'accentue donc pour pas mal de parents en Belgique désireux de placer leur enfant en crèche. Il n'y a pas assez de place. L'an dernier, ils sont plus de 6 sur 10 à avoir eu de vrais problèmes, Vanny Esposito.
Oui, pas de place en crèche publique. Les prix en crèche privée sont très élevés. Et selon le baromètre de la Ligue des Familles, 2 parents sur 10 ont finalement renoncé à mettre leur enfant en crèche à cause de tout ça. Et pour ceux qui trouvent une place, souvent ce n'est pas à la date souhaitée. Cela peut impliquer un arrêt de l'activité professionnelle d'un des parents, comme l'explique Damien Hachez, chargé d'études à la Ligue.
Il y en a 23% qui doivent prendre un congé parental ou réduire leur temps de travail. Et très souvent, ce sont les mamans qui vont en fait être les premières à réduire leur activité professionnelle avec toutes les implications que ça a.
Les familles sont donc demandeuses de plus d'aide dans leur quotidien. Pour la Ligue des Familles, le changement doit avoir lieu au niveau du nombre de places disponibles en crèche.
Il faut absolument augmenter le nombre de places en crèche pour permettre de répondre aux demandes en fait de l'ensemble des parents, des familles sur le territoire francophone. Ce que nous demandons, c'est de relancer un nouveau plan massif de création de places d'accueil pour que cette problématique qui dure depuis des années se résorbe et que les parents puissent aborder la naissance de leur enfant autrement que dans le stress de ne pas avoir une place.
D'après la Ligue des Familles, aujourd'hui, dans les crèches francophones, il manque à peu près 10 000 places.
Les chiffres de ce baromètre Ligue des Familles avec vous, Vanny, merci. Et rendez-vous sur RTL Info pour retrouver ces éléments. Cette alerte au vent, ce lundi, le 1722 est d'ailleurs activé. Numéro de téléphone pour les interventions non urgence des pompiers. Alerte jaune IRM lancée à midi jusqu'à ce soir pour tout le pays avec des coups de vent jusqu'à 90 km/h. Les parcs et espaces verts en région bruxelloise seront interdits au public durant toute cette période. Le succès des primes vélo au cœur de l'actualité. Trois enquêtes BIMOB initiées par le ministre en charge expliquent qu'un Belge sur trois désormais se rend au boulot à vélo, 32 contre 29%. Il y a 5 ans, l'augmentation de l'indemnité kilométrique y est pour beaucoup. Il faut dire que le vélo électrique gagne aussi beaucoup en popularité avec un nombre d'utilisateurs qui a grimpé de 24 à 28% en un an à peine. L'ONU demande d'urgence à éviter d'étendre la guerre au Proche-Orient. Il y a Israël et le Hamas, depuis des mois, on le sait, mais aussi désormais Israël face à l'Iran qui a envoyé 300 drones et missiles sur l'État hébreu ce week-end. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni hier soir, appelle à une désescalade et le secrétaire général de l'ONU l'a dit, ni la région ni le monde ne peuvent se permettre plus de guerre. Partons en Israël tout de suite avec Fleur Sitruk. Vous êtes notre correspondante RTL à Tel Aviv. Fleur, la vie semble avoir repris normalement ce matin?
Oui, toutes les restrictions sont levées. En ce jour de vacances scolaires, les enfants peuvent retourner dans les garderies, les centres aérés ou les camps de vacances. Les manifestations sont également de nouveau autorisées. Le message est clair, retour à la normale, le danger est passé. La décision a été prise par l'armée tard dans la nuit, après le cabinet de guerre qui s'est tenu hier. Concrètement, ça signifie qu'il n'y aura pas de riposte immédiate de l'armée israélienne en Iran et donc pas de nouvelle escalade.
Oui, d'ailleurs, le gouvernement, Fleur Citruc, est divisé sur la forme que doit prendre cette riposte. Quelles sont les options sur la table ?
La première, c'est œil pour œil, dent pour dent, et donc frapper l'Iran sur son territoire pour toucher des installations militaires critiques. L'État hébreu pourrait également intensifier sa politique d'élimination ciblée des gardiens de la Révolution et attaquer des bases militaires iraniennes en Syrie, en Irak et au Liban. Autre possibilité, lancer une guerre totale contre le Hezbollah, allié de l'Iran, qui vise le nord d'Israël au quotidien par des dizaines de missiles depuis le début de la guerre avec Gaza.
Fleur Citruc à Tel Aviv pour RTL. De leur côté, les dirigeants des pays du G7 ont assuré Israël de leur plein soutien. Ils se disent prêts à prendre des mesures contre Téhéran. Le G7 réunit les dirigeants des États-Unis, Canada, Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie, Japon et la présidente de la Commission européenne et le président du Conseil européen. La campagne américaine présidentielle est maillée par un fait historique. Il se déroulera cet après-midi à New York. Donald Trump, candidat et ex-président, sera à la barre. Il répond au pénal dans l'affaire Stormy Daniels, du nom de cette actrice X qu'il aurait soudoyée pour acheter son silence après une relation sexuelle. L'assaillant au couteau à Sydney, en Australie, semble avoir ciblé les femmes. Cet homme a fait 6 morts et plusieurs blessés samedi dans un centre commercial. Il s'appelle Joel Cauchy, il a 40 ans et souffre de troubles mentaux. 8 personnes blessées lors de l'attaque sont toujours hospitalisées. Procès important aux États-Unis après celui de Donald Trump, celui de l'armurière du film Rust, ce western produit par Alec Baldwin et sur le tournage duquel la directrice de la photographie avait été tuée par balle par un tir. Elle doit être fixée sur sa peine. Elle est jugée coupable d'homicide involontaire. C'est elle qui avait chargé le revolver avec lequel Alec Baldwin répétait lorsqu'il a tiré une balle réelle. 9h06, l'enquête conso ce lundi, elle concerne les asperges. Vous en avez sûrement fait l'expérience, la botte d'asperges pourtant wallonne a grimpé, passant de 4 à 7 euros, voire davantage. Alors pourquoi si cher? Alors que ça vient de chez nous, les explications de Florent Awot, il est conseiller technique au Centre interprofessionnel maraîcher avec Bernard Lobet.
L'asperge, c'est un légume qui est produit d'avril à juin, donc c'est sur une courte période. Les rendements sont assez faibles par rapport à d'autres cultures, maximum 7 tonnes hectares. Comparé à, par exemple, de la carotte, où on peut arriver à 60-90 tonnes à l'hectare. Donc forcément, le prix suit ça. Il faut ajouter à ça l'immobilisme de la terre. Donc il faut savoir qu'une aspergerie, ça ne produit que 2 mois, mais ça prend l'espace de la terre pour toute une année, puisque c'est une plante pérenne. Troisième point, je dirais que c'est les coûts de main-d'œuvre importants. Donc ça demande beaucoup de temps de travail pour la récolte, ce qui explique que le prix est assez élevé par rapport à d'autres denrées alimentaires.
Et notre quotidien, ce sont aussi une foule de produits ultra transformés, des chips, des plats préparés, des gâteaux industriels, souvent pointés du doigt pour les risques liés à leur consommation. Une récente étude montre une fois de plus leur danger concret sur notre santé. Laura Van Lerberg et Maëlle Arnold-Dussen.
Pour produire ces aliments, l'industrie alimentaire recourt au cracking, le fractionnement en français. Les œufs, pommes de terre ou maïs sont fractionnés en dizaines de poudres et sirops pour refabriquer d'autres aliments. Pierre Garin, responsable du service diététique aux cliniques Saint-Luc.
Comme c'est complètement détruit, vous n'avez plus évidemment les nutriments tout à fait adaptés évidemment à la consommation humaine.
Ils contiennent des additifs et des émulsifiants, ce qui permet aux industriels de rendre l'aliment plus savoureux. Les supermarchés sont souvent critiqués pour les mettre en avant, mais certains disent faire des efforts. Karim Agou, porte-parole de Deleuze.
Ce ne sera pas tout de suite de le bannir, je pense même que ce ne sera pas à moyen terme, mais en tout cas, de plus en plus, vraiment un maximum, on essaye de mettre en avant les fruits, les légumes, du poisson, de la viande, vraiment des produits premiers, des produits naturels.
Certains produits menaceraient notre santé. Hélène Alexiou, diététicienne.
Il y a une série d'études, donc notamment des études de cohorte prospective, qui ont montré des associations entre le fait de manger beaucoup d'aliments ultra transformés et un certain nombre de maladies. Donc on montre que ça augmente probablement le risque d'obésité, de maladies cardiovasculaires, de diabète, etc.
Conseil, il faut avant tout bien lire les étiquettes. Il existe aussi des sites qui peuvent vous renseigner sur le degré de transformation de vos aliments. Autre alternative, cuisinez tout vous-même avec des produits bruts.
Ah, c'est toujours ce qu'il y a de mieux. Merci beaucoup Maëlle Arnold-Dussen. Fin de ce journal, il est 9h09. Benjamin Maréchal, c'est à vous. Elle mériterait d'être dans le journal. Votre invité aujourd'hui.
Ouais, c'est un il et elle ce matin, puisque nous allons en Russie ce matin raconter l'histoire de Vladimir Poutine. Bonne journée Thomas.
Bonne journée.
après d'être dans le journal. Benjamin Maréchal.
Et ce matin, c'est donc l'histoire de Vladimir Poutine, racontée par Nina Bashkatov, journaliste, auteur de Poutine, l'homme que l'Occident aime haïr, qui mérite d'être dans le journal. Racontera-t-elle ce petit gars de Saint-Pétersbourg qui a grandi dans la banlieue avec des parents vieillissants? L'ancien étudiant en droit a-t-il un jour cédé à la corruption, où il est resté droit comme au début? Et comment fait l'ancien boss du KGB pour éliminer systématiquement ses opposants? Eh bien, vous le saurez ce matin en écoutant l'histoire de l'homme qui est souvent dans le journal, mais dont l'histoire mérite d'être dans le journal. Nina Bashkatov, bonjour et bienvenue. Alors, vous connaissez bien la Russie, pas que de littérature, parce que vous avez travaillé là-bas pendant longtemps, vous aviez un bureau de correspondante, votre bureau était vraiment dans Moscou? Vous étiez à combien du Kremlin, vous, quand vous y étiez?
Quand il faisait beau, après avoir bu un peu le jour du défilé du 1er mai, on pouvait rentrer à pied depuis la place Rouge. Mais en fait, c'était à l'époque, on était obligé de vivre dans des immeubles pour étrangers.
Ah oui, qui étaient vraiment identifiés et surveillés, j'imagine, du coup.
Oui, surveillés, mais ça faisait partie du jeu. Mais je vais dire, donc il y avait trois types d'étrangers, les diplomates, les correspondants et les hommes d'affaires. Et tout ce petit monde devait vivre dans des appartements, dans des immeubles qui étaient gérés par une société d'État attachée au ministère des Affaires étrangères. Donc on n'avait pas le choix de son logement. C'était beaucoup plus confortable que les logements que les moscovites avaient, même ceux qui étaient privilégiés. Et c'était un peu...
Ça nous
coupait du monde. On pouvait vivre. Et beaucoup de gens, malheureusement, cette vie d'expatriés était très particulière à l'époque soviétique, notamment, parce que les gens pouvaient vivre absolument en autarcie, se méfier de tout ce qui se passait alentour et ne se risquer que pratiquement en groupe ou de manière très exceptionnelle.
L'avantage, c'est qu'ici, on va pouvoir parler, se dire les choses, elle va pouvoir nous raconter le président tel que vous le percevez, tel que vous l'avez écrit. On commence par les questions de la voix qui va vous poser quelques questions pour démarrer l'article express. Vous pouvez mettre le casque sur les oreilles, augmenter un peu le volume pour être sûr de bien saisir les questions et nous permettre d'écrire l'article en version express de ce matin sur Vladimir Poutine, dont on raconte l'histoire. Salut l'intelligence.
Bonjour Nina, ou plutôt Dobreyotra Nina, comme on dit en russe. Est-ce que vous avez déjà rencontré Vladimir Poutine en vrai? Dans une conférence de presse par exemple?
Ouais, pas bête, vous l'avez déjà vu en vrai?
Mais en vrai, dans des conférences de presse, oui, mais c'est pas très original, puisque tous les correspondants étrangers étaient automatiquement convoqués quand il y avait des grandes conférences de presse.
Oh, mais il génère un charisme, il y a un charisme évident ou pas spécialement?
C'est quelqu'un dont on suit les paroles, alors c'est toujours difficile de voir si on suit l'homme ou si on suit la fonction.
Ça vaut pour tous les présidents.
Donc, tout le monde était très content d'être là chaque fois qu'il pouvait être pendant une conférence de presse. Et il a certainement beaucoup d'aisance, on le voit encore maintenant quand il fait ses conférences de presse pendant 3 heures parfois. Donc je crois qu'il aime bien aussi de montrer cette maîtrise parfaite qu'il a de son sujet. Et il a une forme de communication.
Ah ouais, je note ça comme premier élément de portrait. Alors, une forme d'aisance dans des conférences de presse longues. Question.
Vrai ou faux, Boris Yeltsin a confié le poste de président à Poutine en échange d'une immunité totale. Un deal qu'on pourrait résumer comme ceci, le pouvoir contre la paix.
Ça colle, ça? Je te fais président, tu me poursuis jamais. Vrai ou faux, veut la voix.
Ce n'était pas quand même la base du deal. Ça a été la manière, parce que en fait, c'était pas vraiment Yeltsin lui-même qui a choisi Poutine. C'était les oligarques dont il dépendait entièrement. Ils se sont mis d'accord sur un nom et la fille de Yeltsin, parce que Yeltsin était complètement ailleurs à l'époque,
malade et sous emprise de boissons aussi. Ouais.
Et donc c'était sa fille qui gérait en fait tout le groupe. Et c'était par sa fille qu'il fallait accéder à Boris Yeltsin et elle a été très une très dure négociatrice pour obtenir que non seulement Yeltsin soit lui-même protégé, mais que la famille aussi, qu'il n'y ait pas de poursuite contre la famille.
Ah oui, donc une forme d'impunité. Vous répondez du tac au tac aux questions de la voix.
Est-ce que c'est vrai qu'à chaque déplacement, on récolte ses excréments et qu'il a une tasse à lui dans les sommets pour ne pas laisser d'empreintes?
Ouais, c'est cette super priorité à la sécurité. C'est vrai ça ou c'est des rumeurs de magazines?
Non, mais je crains de vous décevoir, ce n'est pas typique de Poutine.
Tous ?
Il y a un tas de dirigeants étrangers qui, effectivement, prennent des précautions, si je peux appeler cela, pour ne pas laisser de traces du tout.
Ah ouais, donc c'est pas le seul parano, c'est de la sécurité, ok.
Tout à fait.
Vladimir Poutine a été agent au KGB. On disait à l'époque qu'il n'était pas le plus doué. Vous pouvez confirmer ?
On disait qu'il était un peu sans saveur, quoi, que c'était pas le plus...
Le plus doué, Peut-être, mais le KGB était quand même composé... Vous aviez une partie de gens qui étaient extrêmement brillants, très séduisants, et puis vous aviez une partie d'hommes beaucoup plus gris, je vais dire, et lui faisait partie de plus cette catégorie du KGB. Alors, c'est vrai qu'il était colonel, donc il n'était pas non plus un général, mais il était quand même à l'étranger, ce qui était un prestige à l'époque d'être posté à l'étranger, ça faisait la différence. Et puis, il n'avait pas d'ambition, en fait, c'est assez extraordinaire, parce qu'il a été coincé en Allemagne au moment où on a décidé de retirer, le Kremlin a décidé de retirer les troupes de, une partie des troupes de l'Europe
centrale. Ah ben, on racontera dans un instant son positionnement à Dresde et comment, effectivement, à un moment, il doit revenir, enfin, comment il est parti et comment il doit revenir. La petite dernière.
En parlant ce matin, vous craignez quelque chose ?
Oui, on a tellement peur de Poutine, là, aujourd'hui, que...
Écoutez, moi, je n'ai aucun courage physique, donc je suis toujours quelqu'un qui arrive après les manifestations où il y a des violences. Mais d'un autre côté, non, je trouve qu'il ne faut pas être...
C'est bien de le dire. On peut se parler à l'oreille racontée. Dans tous les cas de figure, la porte du studio est fermée, je vous le dis. Si vous voulez raconter avec nous l'histoire de Vladimir Poutine, c'est au 33 23, 25 centimes le message.
Il mériterait d'être dans le journal.
Et en cas de danger, je regarde dans le studio qui pourrait potentiellement nous protéger. Alison, la demi-boss d'Il mériterait d'être dans le journal. T'es un peu costaud ou pas ?
Oui, je peux défendre tout le monde.
Ouais, Patrick, le chauffeur de taxi, un peu bodyguard aussi, un peu quand même. Ouais, on va dire bodyguard. Et sinon, on enverra Charles qui réalise.
Voilà. Ça reste à le faire.
Ouais. Mais en plus, c'est lui qui est le plus loin de la porte, il est tranquille. Pascal Obispo est sur Bel RTL avant l'histoire de Vladimir Poutine.
Faire de sa solitude une prison. Ou juste les pensées s'évadent. Enfer sans enfer et sa raison. Pour se laisser passer, ennemi soldat. Laissez passer, ennemi soldat. Laissez glisser, ennemi soldat. Laissez faire, ennemi soldat. N'avoir pas vu le cours des saisons. Arrêter les volets fermés. Ni lever les yeux vers l'horizon. Juste laisser entrer, ennemi soledad. Laissez passer, ennemi soledad. Laissez glisser, ennemi soledad. Laissez faire, ennemi soledad.
Ça, c'est pour la dose de soleil de ce matin, parce que pour le reste, on va dans le pays du froid. Nous sommes en Russie ce matin. Dans un instant, Nina Bashkatov va nous raconter les débuts de Vladimir Poutine. Il ne naît pas à Moscou, on est à Saint-Pétersbourg. Enfin, il n'est pas dans Saint-Pétersbourg. Ça s'appelle pas comme ça à l'époque, hein. Comment s'appelle la ville à l'époque ?
À l'époque, c'était Leningrad.
Ouais. C'est un petit gars de Leningrad, de la banlieue, dont on vous raconte le début de l'histoire après ceci.
Il mériterait d'être dans le journal revient dans quelques instants sur Bel RTL.
Pourquoi de plus en plus de personnes font leur achat avec leur smartphone? Et pourquoi le pouvoir d'achat est au cœur des programmes politiques? Et pourquoi la mobilité l'est-elle aussi? Et pourquoi les élections, c'est si important pour la démocratie?
On ne se demande jamais trop pourquoi. Lire le soir, c'est se demander pourquoi pour mieux comprendre pourquoi. Le soir.
Avec Sirius comme partenaire, le premier pas vers le statut d'indépendant est plus petit qu'on ne pense. Faites-le et tracez votre propre chemin.
Derrière vous, Sirius est là.
Bonjour, votre spécialiste du jardinage.
Bonjour, j'aimerais tondre ma pelouse.
Prenez une tondeuse sur batterie Stihl.
Stihl, oui. Et pour tailler ma haie?
Encore Stihl.
Ah ok, et couper les bordures, Stihl sans doute.
Tout à fait.
Scier du bois?
Stihl.
Rechargez à bloc pour cette saison de jardinage avec les machines de jardin sur batterie Stihl.
Stihl. À chacun son Stihl.
Avec le McFlurry à 2,50€, tes petits creux ont droit à un big deal chez McDo. À ce prix-là, choisir le dessert, c'est plutôt facile. Mais choisir entre M&M's, Oreo, Biscoff ou Snickers, ça, c'est compliqué.
Ah, Snickers aussi. Oula.
Très compliqué.
Il mériterait d'être dans le journal.
Mais on recommence à zéro, c'est quoi la vie du petit Vladimir Poutine? Nina Bashkatov nous raconte Vladimir Poutine ce matin. On est donc dans la banlieue de Saint-Pétersbourg. C'est là qu'il naît. Milieu plutôt aisé, des fonctionnaires du haut ou petit milieu ouvrier?
Non, pas du tout. C'est un milieu ouvrier et il est assez représentatif de cette génération de Russes dont les parents ont eu un enfant avant la guerre et puis le père était au front. Et donc vous avez le petit dernier ou la petite dernière avec un grand écart d'âge. C'était une banlieue, mais vraiment en banlieue ouvrière de Leningrad, pas Saint-Pétersbourg, et une enfance assez de banlieue.
Il fait des études de droit, Vladimir Poutine, ce qui dit quand même plutôt une carrure intellectuelle, en fait.
Oui, c'était la période soviétique. Si vous étiez un bon élève en l'école primaire, vous étiez repéré, vous étiez suivi au secondaire, donc il a appris l'allemand, forcément. Donc ça veut dire qu'il était dans un lycée où il y avait plusieurs langues enseignées, et puis il a fait le droit à la faculté de Saint-Pétersbourg, qui est quand même une excellente faculté de droit. Alors, après, il a fait l'école du KGB.
Et il faut lui laisser une petite expertise quand même communale, on le dirait comme ça en Belgique, puisqu'il va beaucoup travailler pour la mairie de Saint-Pétersbourg. C'est une expérience communale au départ. Ça, c'est ses premières expériences politiques, en gros.
Oui, politique, oui. Donc, parce que quand il est rentré d'Allemagne, il n'avait pas de boulot, il n'avait plus de boulot, puisque le service dont il dépendait n'existe plus. Et donc, il a raconté dans plusieurs de ses biographies qu'en fait, il espérait pouvoir rentrer avec une voiture d'Allemagne et de faire le taxi à Saint-Pétersbourg. Donc, c'était son plan de carrière. Et puis, il a été coopté à la mairie de Saint-Pétersbourg par Anatoly Sobchak, qui était à l'époque le grand réformateur, libéral, etc. C'était quand même très...
Oui, très paradoxal.
Très paradoxal.
Mais c'est vrai qu'avant de reparler du coup de politique et de ce qui va le lancer, il y a effectivement ce passé très emblématique au KGB. On dit que c'est un agent sans disposition, qui peine à sortir du lot. Sauf qu'il a une chance quand même, c'est qu'en 85, on va l'envoyer en Russie, en Allemagne, à Dresde, où il fait des missions prioritaires, où il fait des missions un peu subalternes. Qu'est-ce qu'il fait là, à Dresde, en Allemagne?
Oui, il fait le travail que tous les agents du KGB de ce niveau faisaient. Donc, c'est essentiellement des contacts avec les gens qui, de la collecte d'informations et de la gestion de personnel. Alors, moi, j'aime beaucoup cette histoire, petite fonction, etc. Parce que quand il a été nommé, c'est vrai qu'il y avait de la part des intellectuels à Moscou une espèce de dédain en disant ce petit colonel du KGB, d'où il sort, rien du tout, etc. Et puis maintenant, je vois qu'on a à la fois l'argument que vous venez de citer, donc qui finalement, c'est un homme relativement gris, obscur, pas très malin, et en même temps, on lui prête des capacités phénoménales d'intervenir dans tous les pays du monde à tout moment, etc.
Oui, donc, c'est là qu'il faut faire le tri.
Choisir, quoi. Oui, voilà,
oui. Oui, mais au final, si on fait une relecture, c'était un petit qui a grandi ou c'était vraiment un petit gris? Vous restez sur le petit gris?
Non, pas du tout. Moi, je crois que c'était un homme d'appareil. Et donc, à un moment donné, il a rempli sa fonction comme on l'attendait de lui, qui était déjà pour lui quand même une promotion sociale, regardez du milieu duquel il vient.
Il faut quand même rappeler que c'est pas anodin, parce qu'à l'époque, il y a l'Allemagne de l'Est, il y a la Stasi, qui est la police de l'Allemagne de l'Est, donc on n'est pas dans l'Allemagne telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc lui, il est envoyé dans un terrain d'opération où on a un régime est-allemand qui est très très dur avec le soutien de la Russie. C'est ça son contexte, c'est pas l'Allemagne d'aujourd'hui, hein.
Non, 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 non. Et le dress de l'époque n'était pas la même chose non plus. Mais c'était, en fait, il était à l'intérieur du bloc. Donc, il était à l'étranger, mais pas complètement à l'étranger non plus, puisqu'il était dans le bloc communiste. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il parlait un allemand impeccable, d'où ses rencontres avec Angela Merkel, même s'il ne s'aimait pas beaucoup. Mais au moins, il pouvait parler en allemand et en russe, puisque elle, venant d'Europe de l'Est, avait appris le russe aussi.
Et il pouvait communiquer. Alors, le temps avance, il y a cette expérience municipale, effectivement, à Saint-Pétersbourg. En 1998, il devient directeur du FSB, donc c'est le nouveau nom du KGB, mais c'est pile poil le moment où Boris Yeltsin, qui est le président, est visé par des enquêtes de corruption. Et donc là, on peut imaginer qu'il y a une propension naturelle à protéger alors le président qui est sous le feu des projecteurs.
C'est une période extrêmement confuse parce que dans la mesure où Boris Yeltsin avait supprimé le KGB et l'avait divisé entre un service de renseignement intérieur et un service de renseignement extérieur, vous pouvez imaginer très facilement qu'il y a eu des compétitions pour les postes qui restaient à fournir, des règlements de compte entre services qui ne pouvaient pas se faire auparavant. Et donc chacun avait ses têtes de turc en disant « voilà, je sors de la corruption sur un tel, si tu touches à celui-là, je touche à celui-là ». Et donc il faut remettre ça dans un contexte de pratiquement une dissolution du pouvoir de l'État et notamment le contrôle sur les services de renseignement.
Ouais, donc à ce stade, il est effectivement président du FSB. Dans un instant, vous verrez comment, en étant là au bon moment, en étant amené dans le bon cercle, il va prendre la tête du gouvernement de Russie et puis devenir président avec une élection quand même. Une élection qui a été très très vite une fois qu'il arrive aux affaires. C'est dans un instant.
Dreams are like angels, they keep at it bay. Love is the light, scaring darkness away. I'm so in love with you. Make love your goal. The power of love, a force from above, cleaning my soul. Flame on, burn desire, love with tongues of fire, purge the soul. Make love your goal. Protect you from the hooded claw. Keep the vampires from your door. When the chips are down, I'll be around with my undying death. If I love you, envy will hurt itself. Let yourself be beautiful. Sparkling love, flowers and pearls and pretty girls. Love is like an energy rushing and rushing inside of me. From above, cleaning my soul. Flame on, burn desire. Love with tongues of fire. Purge the soul. Make love your. From above, cleaning my soul. The power of love, a force from above, the sky scraping down. Flame on, burn desire, love with tongues of fire. Burst the soul, make love your goal.
C'est une reprise du Power of Love, mais il y en a une qu'on connaît, c'est Mentissa, et qui vient de Belgique. Nous sommes donc en Russie ce matin. On va faire un peu de cliché quand même, c'est Ivan Rebrov. Ah oui, Nina Bashkatov, vous connaissez Ivan Rebrov. C'était une star à l'époque que les moins de 20 ans ne peuvent certainement pas connaître. Bon alors, discutons de la Russie, c'est pour bien comprendre le pays. Est-ce qu'aujourd'hui, en rue, en Russie, on peut parler politique librement, entre voisins, entre citoyens, oui ou non, ou pas possible?
Une drôle d'idée de parler de politique dans la rue, non? Je crois que le critère,
au café,
c'est
est-ce qu'on
parle politique quand on se téléphone ou des choses pareilles. Je dois dire que je suis plus retournée depuis quelques années, donc je ne suis pas vraiment ici. Je dois dire que moi, je suis un peu prudente avec certains amis que je connais très bien. C'est ça que je trouve un peu triste dans un sens.
Ouais.
C'est que je ne sais pas. Donc, c'est ça le problème.
Vous avez... c'est une réponse. Je vous ai demandé si on pouvait parler librement. Vous m'avez dit, je suis prudente. C'est une réponse.
Oui, non.
Ah, c'est une réponse. Est-ce qu'en Russie aujourd'hui, jusqu'au plus petit citoyen, est-ce que tout le monde est corrompu? Ou ça, c'est du cliché?
Je suis à... Je vais le dire tout de suite, comme ça c'est connu. Je ne suis pas du tout une adepte de cette obsession sur on lutte contre la corruption, on devient démocratique, ça se passe autrement, etc. Il y a des pays démocratiques qui sont extrêmement corrompus, on en connaît, on ne va pas citer. Mmh. Alors ça dépend ce que vous appelez la corruption. Le problème de la Russie et de plusieurs États post-soviétiques d'ailleurs, c'est qu'il y avait des richesses immenses. Donc la corruption est à l'échelle du pays et à l'échelle... des richesses qui sont à partager. Est-ce que le citoyen... Moi, j'ai connu l'époque quand même où le citoyen habituel souffrait de la corruption parce qu'il fallait rajouter un billet pour avoir son passeport plus rapidement, pour avoir le billet de train que semble-t-il, il n'y en avait plus du tout. Mais vous pouviez toujours acheter par la dame qui était dans le train. Vous savez, donc les gens, pour rentrer à l'école...
C'est de l'arrangement.
Toute une série... Oui, mais ça, les gens souffraient de la corruption. Tandis que maintenant, cette grosse corruption qui existe finalement depuis la deuxième partie des années 90, ça fait partie un peu de quelque chose d'extraordinaire pour discuter. Les gens en parlent énormément, mais ça ne les affecte plus de la même manière.
La petite dernière, souvent à la Côte d'Azur, on voit des riches, on voyait des riches russes se balader. Ça, c'est tout des oligarques ou il y a une classe moyenne très très supérieure qui peut voyager?
Il y a une classe supérieure, même très très moyenne, qui a commencé à voyager aussi. Et donc, ça a été un des bons trucs du système, si je vais dire, c'est de permettre quand même à une grande partie de la population de voyager à l'étranger. Et donc, vous avez eu vraiment cette rupture entre le moment où aller à l'étranger, surtout pour passer des vacances, c'était impensable, et le moment où vous arriviez dans les aéroports de Moscou, où il y avait des charters, après des charters et des charters, qui arrivaient d'Égypte, de Thaïlande, etc. Ce qu'on voit à la Côte d'Azur, etc., c'est autre chose. Ce sont des gens qui ont énormément d'argent.
Ouais, donc ça, c'est les oligarques ou assimilés.
Oui, moi, j'aime pas tellement oligarques, parce qu'alors, vous prenez, qu'est-ce que c'est Tusk ou les gens qui ont Google, ce sont aussi des oligarques à ce moment-là. Ouais, et ils flashent leur monnaie aussi.
Ouais. Donc on va dire des moyens supérieurs, disons-le comme ça.
Non, mais c'est incommensurable. Ouais. Vous n'imaginez pas les sommes qu'ils ont et sont des Russes, donc ils dépensent.
Ouais, c'est pour ça que c'est le mythe de ce Russe à la Côte d'Azur. On fait une pause et puis on fait les questions qui fâchent sur l'élimination des opposants et la méthode Poutine.
Il mériterait d'être dans le journal avec Premium Automotive, Jean Blou.
Regardez, messieurs, dames, mes asperges, y a pas mieux!
Chez Lidl, vous trouvez des produits frais du jour au prix le plus bas du marché.
Et en plus maintenant, un plus 1 gratuit sur les asperges blanches!
Soit seulement 4,79€ les 800 grammes.
Allez, venez!
Lidl, pour tous ceux qui comptent. Plus d'infos sur lidl.be/prix du marché.
On a tous une Zoé, la reine des bons plans qui trouve toujours la bonne affaire. Et quand le soleil se pointe, enfin, on veut tout, tout de suite.
Dis Zoé, t'as pas une idée pour un stage de poney dans le BOE?
Et pour un accrobranche ce week-end?
Une initiation au champ corse?
Sinon, juste un bon pack internet et mobile.
Pour ça, Zoé a repéré le pack duo super relax avec l'internet illimité et 10 gigas de data mobile. Tout ce dont vous avez besoin à seulement 40€ par mois au lieu de 63 pendant 6 mois.
Hein, pas mal ça?
Top!
Car ce qui compte pour vous, compte pour nous.
Vous d'abord.
Infos et conditions sur vous.be ou au 0800 800 25.
Comme chaque année, les plus grands artistes mettent leurs disques d'or en vente au profit du Téléville.
Avec Pierre Garnier, Ce qu'on était.
J'aimerais garder le meilleur.
Slimane, Chronique d'un Cupidon.
Tu savais comme je l'aime.
Louane, Sentiment.
Je vais te confier mon plus gros secret.
Et cette année, enchérissez également pour acquérir un cadre dédicacé par les artistes de la troupe de 1999 de Notre-Dame de Paris. Ou encore, un bandana dédicacé par Renault.
Inscrivez-vous au 02 337 64 01 ou par mail à disque@rtl.be.
Votre musique toute la journée sur Bel RTL.
Je ne pleure pas, je nage dans le murmure des vagues. J'ai oublié ton nom et ton corps sur la plage. Lâché la main sur le Porto Vecchio.
Vous écoutez Bel RTL. Musique toute la journée sur Bel RTL. Bel RTL. On est là pour vous. Il mériterait d'être dans le journal.
Mais est-ce que Nina Bashkatov répond aux questions qui fâchent ? Sur Vladimir Poutine, dont on raconte l'histoire ce matin. Alors dans les questions qui fâchent, il y a ce fameux rapport aux opposants. Le plus emblématique du moment, c'est Alexei Navalny, qui est donc mort dans cette prison où il purgeait une peine de 19 ans. Opposant emblématique et mythique, il avait déjà été empoisonné auparavant par le régime. Est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça ? C'est Vladimir Poutine qui donne un go, un start, et on va attaquer un individu précis. Est-ce que ça correspond au mode de fonctionnement russe et à sa personnalité?
Je crois qu'il faut pas se tromper non plus. C'est pas Vladimir Poutine qui prend son téléphone et qui dit à quelqu'un, tuez telle personne, débarrassez-moi de cette personne-là, etc. Je retrouve
ça,
que
c'est toujours le mythe, hein. Le téléphone rouge, j'appelle
oui,
et on agit.
Mais à la limite, ce serait plus rassurant. Parce qu'en fait, ce que ça veut dire que à tous les niveaux, dans le système judiciaire et dans le système de prison, il y a des gens qui savent les limites, qui connaissent les limites qu'ils peuvent dépasser et qu'il n'y aura pas de répercussions. Mmh. Et ils savent aussi qu'ils seront couverts, parce que comme on ne veut pas découvrir la couronne, si je puis dire, regardez ce qui s'est passé, le directeur de la prison où Navalny est mort a été immédiatement décoré ou promu. Donc c'est une façon de bien montrer, je ne me mêle de rien directement, vous faites ce que vous croyez devoir faire dans votre secteur et vous êtes protégé et même dans ce cas-là promu. Donc c'est un système extrêmement vicieux.
Ah oui, c'est ça, c'est un régime vicieux, mais ce n'est pas un leader autoritaire.
Si, c'est aussi un leader autoritaire parce que vous ne pouvez faire ce genre de deal qu'à partir du moment où vous avez un contrôle du judiciaire par le politique, qui est quand même pas vraiment ce qu'on appelle la démocratie non plus. Hein.
Est-ce qu'il s'est durci, Vladimir Poutine? Parce que je fais un bond en arrière, c'était quasi la préhistoire. On se souvient en 2000 qu'il était notamment en balade avec Bill Clinton, donc c'était l'époque des grands contacts internationaux, la suite de l'ouverture un peu à l'Occident que Boris Yeltsin avait un peu initié. Et à l'époque, on avait l'impression d'un dirigeant qui était prêt à parler. Est-ce qu'il s'est durci entre-temps ou celui de 2000 qui se baladait avec Bill Clinton, c'était le même?
Non, c'était vraiment un autre homme et ça, c'est absolument fascinant à observer dans sa biographie. C'est que il a commencé en voulant faire des réformes et notamment les réformes passaient par des réformes économiques qu'il a fait. Et donc, on a dit, voilà, c'est un libéral. Jusqu'au moment où, pour les Occidentaux, il a fait arrêter Khodorkovsky, qui était un des hommes les plus riches de Russie, mais qui travaillait dans le pétrole. Pétrole égale contrôle quand même, bien national, etc. Et là, ça a écorné sa vision, c'était 2003. Mais alors vraiment, la dérive complète alors, pendant son deuxième mandat, il y avait déjà eu un durcissement parce qu'il y a eu l'élargissement de l'Union européenne, ça ne les dérange pas trop. L'élargissement de l'OTAN, ça c'était différent. Et puis sa réélection en 2012 s'est faite dans un climat de manifestation où Poutine et son équipe ont vu la main de l'Occident, en disant, voilà, les Occidentaux essayent de faire, comme ils ont fait dans d'autres pays, des révoltes de rue pour changer le régime. Et donc là, on a glissé dans quelque chose de différent, et ces dernières années, c'est quand même très inquiétant, parce qu'on a l'impression de gens qui sont dans un tunnel, Et où plus rien ne les attend. Peut-être que je me trompe et j'aimerais bien me tromper.
Ah ouais, mais c'est ça aussi qui amène aussi, alors on fait le raccourci de l'histoire pour les nuls, mais c'est ça qui amène aussi à la situation ukrainienne telle qu'on la connaît. Alors vous êtes une bonne observatrice de Vladimir Poutine, il y en a d'autres, on appelle un ancien officier du KGB. Ancien officier du KGB exilé en France, aujourd'hui Sergueï Jirnov est en ligne, bonjour.
Bonjour.
Nina Bashkatov, qui est l'experte chez nous. Sergueï Jirnov, bonjour. Vous avez rencontré plusieurs fois Vladimir Poutine. La légende raconte qu'il vous a un jour interrogé. Ça veut dire quoi, interrogé?
Ça veut dire qu'il servait à cette époque-là comme capitaine au contre-espionnage, au service de contre-espionnage de Saint-Pétersbourg. On l'a envoyé en 1980 à Moscou pendant les Jeux Olympiques pour renforcer les éléments opérationnels de la ville de Moscou. Quasiment tous les effectifs du KGB étaient concentrés dans cette ville. Moi, j'étais étudiant au MGIMO, Institut de Relations Internationales. Je travaillais, ont été réquisitionnés pour travailler comme volontaire à ces Jeux Olympiques. Donc, j'étais dans le centre de renseignement téléphonique. Notre rôle était de répondre en langue étrangère aux sollicitations des touristes et des délégations qui venaient aux Jeux Olympiques. Et donc, en fait, il y a un Français qui m'a appelé. Et on a passé 2 heures au téléphone, donc en bavardant de tout et de rien. Et ça a paru un peu suspect. Donc la directrice de ce centre a appelé le KGB. Le KGB a envoyé quelqu'un et ce quelqu'un était Vladimir Poutine. Et donc après, on m'a convoqué à la Lubyanka et c'est lui qui m'a interrogé pendant 2 heures en essayant de me mettre sur le dos quasiment la trahison d'État et me mettre en prison parce qu'il voulait avoir la promotion, il voulait rester à Moscou, il voulait avoir peut-être encore une petite étoile sur les épaulettes, ou peut-être une prime, voilà. Mais ça n'a pas marché.
Ah ouais, le monde est quand même petit.
Pour moi.
Alors, le monde est quand même petit. Entre-temps, Vladimir Poutine est donc devenu président russe. Nina Bashkatov, il y a une très grande discrétion autour de lui, notamment sur la vie privée. On sait qu'il a eu une femme, 2 enfants. Tout le reste de sa vie privée, qui pourrait dire un peu l'homme, et peut-être les moyens, les portes d'entrée vers lui... Tout ça est très fermé. On ne sait rien de sa vie privée, Vladimir Poutine.
Non, et c'est voulu. Et ce n'est pas étonnant. Je crois que les Russes, surtout à l'époque, n'aimaient pas tellement les déballages privés comme on avait en Occident. Et donc, en plus, sa femme était une personne qui, de toute évidence, était mal à l'aise en public. Donc, elle a fait le job, mais pas plus. Et je crois qu'aussi que c'est un peu une tradition et c'est bien le personnage. Et je répète, je ne crois pas que les Russes attendaient... ils ont vu sa femme, ça leur suffisait. Il faut rappeler aussi que la femme de Gorbatchev avait été tellement critiquée parce qu'elle était trop présente. Donc il y a un équilibre que je trouve, un jeu social, donc je ne mettrai pas ça sur le dos du personnage.
Qu'est-ce qu'on sait de privé aujourd'hui, Sergueï Jirnov? Il y a notamment le grand chapitre consacré à la maladie. Il y a eu quelques images là ces derniers mois qui circulaient où on voit Vladimir Poutine s'accrocher à une table, signe que s'il n'avait pas tenu la table, il aurait peut-être été un peu tremblant. Il y a un grand mythe autour de sa santé. Comment on fait le tri là-dedans?
Y a un mythe, vous savez, toujours, hein, parce que c'est Poutine devient un peu vieillissant. Donc bien évidemment, en Russie, la moyenne d'âge des hommes, c'est 65-67 ans. Il a largement dépassé déjà cette limite. Et puis on attend en fait la fin du règne de Poutine, et la fin la plus naturelle, si vous voulez, c'est sa mort. Donc du coup, on s'interroge beaucoup, surtout que il a le visage qui parfois est bouffi, et donc on se demande s'il prend les corticoïdes, et s'il prend les corticoïdes, ça veut dire qu'il y a peut-être une inflation quelque part dans son organisme. Mais après, c'est quelque chose qui est assez curieux, parce que j'ai dit exactement ça depuis 2 ans, et pourtant il y a plein d'imbéciles qui ne retiennent pas ce que j'ai dit, et donc en fait ils ont dit: vous avez annoncé son cancer et sa mort. Je l'ai jamais annoncé ça. J'ai parlé d'ailleurs, j'ai donné l'exemple de François Mitterrand qui a parfaitement régné pendant 14 ans avec un cancer de prostate. Et donc voilà, mais souvent les imbéciles n'écoutent pas ce qu'on leur raconte.
Ah oui, mais donc je rappelle que vous n'êtes pas voyant ni médium, hein, mais ancien officier du KGB, observateur de la vie en Russie, Sergueï Jirnov. Merci d'être venu sur Bel RTL Belgique ce matin. Bien malin, effectivement, celui qui peut prédire la fin ce matin. Alors, si vous voulez, après, Nina Bashkatov, je vous demande de prédire la fin, mais vous n'êtes ni médium, ni voyante non plus.
Non, pas du tout, j'ai le sens du ridicule aussi. Donc, je ne fais jamais de prédiction.
La seule vérité, c'est que Patrick Bruel est là, maintenant, là.
Je ne sais pourquoi elle allait danser à Saint-Jean, aux musettes.
Mais quand ce gars lui a pris un baiser, elle frissonnait, était chippée. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Elle qu'il aimait tant, elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean. Elle restait grisée, sans volonté, sous ses baisers. Sans plus réfléchir, elle lui donnait le meilleur de son être. Beau parleur, chaque fois qu'il mentait, elle le savait, mais elle l'aimait. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Elle qui aimait tant, elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean. Restait grisée, sans volonté, sous ses baisers. Mais hélas, à Saint-Jean comme ailleurs, un serment n'est qu'un leurre. Elle était folle de croire au bonheur et de vouloir garder son cœur. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Elle qui l'aimait tant, elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean. Elle restait grisée, sans volonté, sous ses baisers.
C'est Patrick Bruel qui revisite le patrimoine avec Mon amant de Saint-Jean sur Bel RTL. Vladimir Poutine, Nina Bashkatov nous raconte l'histoire ce matin. Tiens, on se souvient des photos où on le voyait en judoka, où on le voyait torse nu, bougeant beaucoup. Il sort encore un peu, Vladimir Poutine. Il y a encore beaucoup de sorties officielles en Russie où il est cloîtré, fermé.
Je crois que la période du Covid fait partie aussi de sa dérive vers une forme de paranoïa. Donc l'extérieur est menaçant. Et donc ils ont fait des protections absolument extraordinaires qui étaient relativement logiques pendant la période du Covid. Et depuis, c'est vrai qu'il tient tout le monde à distance, sauf ce qui a ressemblé quand même à une campagne électorale pour la présidentielle, où il est allé voir les gens, serrer les mains, etc., qui était un retour sur la... Mais je crois qu'il n'est pas très à l'aise là-dedans.
Oui, c'était...
Je crois qu'il est à l'aise avec des gens, quand on voyait par exemple ses vacances avec Sergueï Shoigu, le ministre de la Défense, dont il est un vrai proche. Et là, on voyait qu'il pouvait se détendre. On se demandait s'il en était capable.
Qu'il pouvait se détendre.
Et tandis que dans la vie officielle, il est quand même toujours crispé. Et quand il essaye d'être détendu, il est un peu comme les gens qui sont pas à l'aise, qui se détendent. Et on sent qu'il y a quelque chose de pas... C'est un homme qu'on ne sent pas, je trouve.
Ah bah dans un instant, on raconte non pas l'élection, mais le couronnement. J'ai bien dit couronnement de Vladimir Poutine.
Jusqu'à 10h.
Il mériterait d'être dans le journal. Benjamin Maréchal.
Dis Aldi, t'as quoi de super malin ?
Eh bien, dès mercredi, vin de printemps et apéritif de qualité à bas prix, comme le rosé fruité italien Grande Alberone, au prix super malin de 5 euros. Dépêchez-vous !
Aldi, le choix malin.
Notre savoir-faire se déguste avec sagesse.
Plus que jamais, les fake news se répandent. Plus que jamais, la désinformation influence l'opinion. Plus que jamais, les rumeurs dénaturent les faits. C'est pourquoi, plus que jamais, vous pouvez compter sur la presse quotidienne. Chaque jour, plus de 500 journalistes filtrent l'info et vérifient les faits. La presse quotidienne, plus que jamais essentielle.
L'astuce IKEA de la semaine. Du 14 au 27 avril, gardez précieusement votre ticket de caisse IKEA. Il ne ressemble peut-être pas à un golden ticket, pourtant il vaut peut-être de l'or. Ou plus exactement, un bon de 1000 euros.
IKEA.
Plus d'infos sur IKEA.be.
Être un champion, c'est repousser les limites. C'est réaliser des exploits.
c'est inspirer le monde. Être un champion, c'est douter, progresser, perdre, parfois gagner. Le Télévis a besoin de champions. Des champions qui aident d'autres champions. Malades, proches, soignants, chercheurs, bénévoles, donateurs. Des champions qui osent tout. Des champions qui donnent tout. Vous aussi soyez un champion du Télévis. Faites un don sur télévis.be et aidez la recherche contre le cancer.
Avec le Power of Love de Belfius.
Vous en voulez plus ? Vous en aurez plus. Plus de data, mais pour moins. Moins 20% chez Base. Par exemple, 25 gigas pour 16 euros par mois au lieu de 20. Plus, moins, pour vous, à vie. Plus d'infos sur base.be. Base, based on you.
Il mériterait d'être dans le journal.
Et si on racontait les élections de Vladimir Poutine ? Bah, il faut dire Lénine Bashkatov parce qu'il a souvent été réélu. Il a même organisé le système pour être là jusqu'en 2036, c'est ça ? Il a réorganisé la possibilité d'être élu jusqu'à passer 80.
Ah, je ne veux pas jouer sur les mots, mais il n'a pas réorganisé. Il a fait voter une loi qui modifiait la Constitution. Oui, mais enfin, il faut être sérieux, les choses sont comme elles sont. Donc, on a modifié la Constitution par un référendum que l'on peut considérer comme douteux. Donc, il est en toute légalité. Donc, il ne fait pas de l'usurpation de pouvoir. Et donc, c'est prolongé. Il peut encore avoir un mandat après celui-ci. Et on a vu d'ailleurs les campagnes électorales arriver dans cette espèce de cul-de-sac. Parce qu'en 2000, c'était quand même, les gens étaient très contents de l'avoir, de pouvoir voter pour lui, de changer après Yeltsin. En 2004 aussi, parce qu'il avait un bilan économique et social excellent. Puis en 2008, il s'est retiré. On a eu l'épisode Medvedev.
Il est devenu premier ministre. Le premier ministre est devenu président
pour ne pas avoir deux mandats. Et puis après, les campagnes électorales ont été beaucoup plus contrôlées, beaucoup plus, avec une lutte contre les opposants, des coups bas, très très bas, pour en arriver à maintenant la situation qu'on connaît, l'emprisonnement des opposants.
Des opposants et la réélection récente. Alors on appelle maintenant un ancien ambassadeur belge en Russie, qui a rencontré plusieurs fois Vladimir Poutine quand il était Premier ministre notamment. Guy Trouveroy est en ligne, bonjour.
Bonjour, bonjour et bonjour Nina.
Oui, bonjour.
Ah ben je vois à son sourire que vous vous connaissez. Alors les mots sont volontairement choisis. Vous avez assisté, Guy Trouveroy, au couronnement de Poutine le 7 mai 2010. Alors un couronnement en général, c'est pour un roi. Lui n'est pas roi mais président. Qu'est-ce que vous entendez par couronnement de Poutine ?
Bon, mais écoutez, il s'agissait du 7 mai 2012. Et après des manifestations monstres contre lui, la veille, le 6, et j'étais dans la rue avec mon épouse en train de regarder comment ça se passait. Quand ça commençait à bastonner, on s'est dit que c'était peut-être plus de notre rôle de rester dans la foule. Mais le lendemain, dans une pompe invraisemblable, il s'est littéralement, c'est une expression à moi, posé la couronne sur la tête. Il y avait des dizaines de milliers de manifestants dans la rue la veille. Le lendemain, Moscou était vide. Entre la Maison Blanche, qui est le résidence du Premier ministre, et le Kremlin, il n'y avait pas un chat, sauf avoir passé le convoi de Poutine. Et Poutine a organisé dans le Kremlin une immense salle dans laquelle tous les dignitaires du régime se trouvaient, tandis que, par exemple, les diplomates et les autres observateurs étrangers se trouvaient devant un grand écran dans une salle connexe. Ça a été fait avec une emphase assez impressionnante, et ça rappelait un petit peu les images qu'on avait de Napoléon se mettant sa couronne sur sa tête.
Ah ouais, mais donc Nina Bashkatov, il aime bien ça alors, Vladimir Poutine, cet apparat, cette aura autour de lui, il aime ça alors, du coup.
Oui, je crois que c'était particulier en 2012, parce qu'il y avait, comme M. Trouveroy vient de l'expliquer, un fond de manifestation. Moi, j'avais jamais vu ça, sauf pendant les toutes premières années, fin des années 80 et années 90, mais là, c'était en faveur de la démocratie. Ici, c'est moins une protestation. Et le faste qui est, que moi, je trouve assez ridicule, la manière dont les soldats sont habillés, etc., tout cela, malheureusement, est un héritage de la période de Boris Yeltsin, quand il a voulu donner un cadre. Mmh. Et donc, Poutine en a profité. Mais la différence quand même essentielle, c'était la condition dans laquelle il venait d'être réélu. Et donc là, tout l'apparat paraissait, oui, tout à fait, cette mise en scène un peu hollywoodienne et un peu ridicule.
Je pose la question à l'ancien ambassadeur Guy Trouveroy que vous êtes. Donc, on a bien compris qu'il y avait eu des périodes Poutine, période d'ouverture, ouverture supposée, une radicalisation. C'est un homme qui pourrait encore rechanger, qui peut être pragmatique au point de rechanger de visage et de reprendre un peu les signes de l'ouverture, ou c'est fini, vous pensez, il n'y aura pas de rechangement ?
Moi, je crois que là, il s'est enfermé dans un coin. Je ne pense pas qu'il soit en mesure de revenir avec tout ce... Mais écoutez, n'oubliez pas, par exemple, qu'il est sous un mandat d'arrêt, enfin, un mandat d'arrêt de la Cour internationale de justice. Donc, je crois que là, c'est fini, c'est parti. Si on veut des changements en Russie, me semble-t-il, mais ça, vous pouvez le demander aussi à Nina, il faut un changement de personnage.
Et là, on n'y est pas, effectivement, ça nous ramène à comment prédire la fin. C'est pas l'émission des médiums ce matin. Merci d'être venu sur Bel RTL. Ce matin, je rappelle votre passé d'ambassadeur belge en Russie, Gritouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvrouvr aujourd'hui résumer Vladimir Poutine, parce que le but c'est d'écrire un article chaque matin dont il mériterait d'être dans le journal. Et comme vous avez été journaliste, on va trouver le bon titre parfait qui correspond à ce 15 avril.
Il mériterait d'être dans le journal revient dans quelques instants sur Bell RTL.
Dichou, on n'arrêterait pas notre hibernation là ? C'est déjà le printemps, tu sais.
Ça tombe bien. Sur Plan B de Sudinfo, c'est le mois de la maison. Plein de bons plans pour rénover, redécorer et aménager la maison et le jardin.
Le mois de la maison, c'est une foule de bons plans pour bien commencer l'été. Et c'est sur sudinfo.be/plan B.
Sudinfo, la Meuse, la Nouvelle Gazette, la Province, Nord-Éclair, la Capitale.
Les champions du Cuistax sont en route. Leur mission, récolter un maximum d'argent pour le Télévis. Soutenez Ludo, venez l'encourager sur le parcours et faites grimper sa cagnotte en le parrainant sur télévis.be.
L'aventure sera possible que grâce à vous.
Jusqu'au 20 avril, les champions du Cuistax vont tout donner pour le Télévis.
Grâce au soutien des joueurs de la Loterie Nationale.
Par Ténamut, cultivons votre santé.
Ludo fait le plein d'énergie avec Vitalité 4G de Forte Pharma.
Belle RTL, tous vos titres préférés.
Mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours,
to me.
Bell RTL, tous vos titres préférés.
D'être dans le journal.
Mais quel est le bon titre pour résumer Vladimir Poutine ? Là, je fais une parenthèse avant de choisir le bon titre, Nina Bashkatov, mais il y a ce qu'on dit dans les médias, puis il y a la réalité diplomatique. Vladimir Poutine, il a encore des présidents occidentaux, européens en ligne, il y a encore des contacts directs dans le secret de l'alcôve, vous qui savez comment fonctionne la diplomatie, où il n'appelle plus personne, et plus personne ne l'appelle.
Quand même rester sérieux, même dans les périodes des plus grandes crises internationales, il y a toujours eu des canaux qui étaient restés ouverts.
Les canaux sont jamais fermés, ouais.
Ils sont jamais fermés et ils fonctionnent à différents niveaux. Et dans le cas des contacts avec la Russie, toute une série fonctionne très bien. On a vu maintenant dans la situation en Iran, à quel point ça fonctionne bien, les uns s'informent des autres. Quand on bombarde en Syrie, chacun fait savoir, etc. Donc il y a des contacts. L'Union européenne, c'est différent parce que l'Union européenne n'a pas ces canaux traditionnels de diplomatie, de services de sécurité, de militaires. Donc là, c'est différent. Mais si on regarde dans le monde, on peut pas se permettre de faire comme si la Russie n'existait pas. Et même si on n'aime pas Poutine, bon, c'est pas une histoire d'amour, hein, c'est pas un roman hollywoodien, hein, c'est simplement le réalisme des relations internationales.
Oui, c'est la réalité de qui est en poste.
Il faut bien parier avec lui, voilà, tant qu'il est en poste. S'il y a quelqu'un d'autre, on sera tous très contents.
Alors, c'est la particularité de ce matin, c'est que vous êtes journaliste, mais malgré ça, les conseillères médias peuvent vous aider. Sur un air russe qu'on accueille, Sandrine Korman, bonjour.
Da.
Bonjour.
Ah, elle connaît. Vous avez mis votre veste d'aviatrice?
Bah oui.
Ouais, une veste en cuir de pilote. De l'autre côté, en costume, Alison Del Rey, conseillère média aussi. Alors, donc t'as un titre qui correspond non pas à Nina Bashkatov, mais à Vladimir Poutine. Soit on met, et c'est aussi votre perception d'observatrice, soit on met Vladimir Poutine ne mourra jamais, avec l'impression que c'est un régime jusqu'au bout du bout du bout, Vladimir Poutine ne mourra jamais. Soit on met un homme pas si compliqué que ça à comprendre. Parce qu'on a bien compris qu'il y avait une aura, disons, homme fermé, isolé, mais au final, certains ont analysé sa psychologie. Ou alors, on sait ce qu'on perd, mais pas ce qu'on retrouve. Sous-entendu, il y a pire après lui.
Voilà, hein.
Mettriez Vladimir Poutine ne mourra jamais.
Ouais.
Ouais, Alison aussi.
Là, ouais.
Ouais. Mettriez quoi, vous, Nina Bashkatov?
J'ai toujours été absolument nulle dans les titres. Et quand j'écrivais dans les journaux, je disais toujours, vous faites le titre vous-même parce que je suis incapable de fournir un bon titre. Donc si je dois choisir entre ceux qui ont été dits, je dirais plutôt le troisième qui était,
on sait ce qu'on a,
on ne sait pas ce qu'on aura. Ça ne veut pas dire qu'on aura pire. Mais je veux dire, c'est vraiment...
Mais là, c'était sous-entendu, il y a pire après lui. Il y a déjà un dauphin désigné que lui aurait désigné.